Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h19 et peut-être venez-vous de profiter de cette journée du patrimoine en dehors des villes où l'événement a été annulé pour raisons sanitaires, de Bordeaux à Nice, de Lille à Montpellier, de Saint-Etienne à Ajaccio. À Paris, en revanche, l'opération a été maintenue et vous avez même fait carton plein rue de Valois dans votre ministère de la Culture. Bonsoir Rosine Bachelot.
Bonsoir Wendy Bouchard. Oui, effectivement, carton plein. Enfin, vous
sur avez, inscription.
Sur inscription, vous avez très justement dit qu'un certain nombre de manifestations avaient été annulées pour raisons sanitaires, mais sur 17 000 événements habituellement, 13 000 événements ont été maintenus, ce qui est évidemment un succès tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que les gens avaient l'air très heureux. Vous savez, ça m'a frappé en allant à la rencontre des personnes qui étaient là. D'abord parce qu'elles ont visité le magnifique ensemble du Palais Royal dans des conditions optimum. Pas de file d'attente puisqu'il fallait réserver sur internet, des visites guidées avec des conférences expliquant ces lieux qui sont tout à fait magiques, par exemple dans le ministère de la Culture, le salon Jérôme, le salon des maréchaux, le bureau du ministre, le bureau du directeur de cabinet, et puis le Conseil d'État, la Comédie Française, le Conseil Constitutionnel. Donc un ensemble tout à fait magique, et les gens étaient très heureux. Alors bien sûr, tout le monde avait un masque, les groupes étaient des petits groupes, il y avait du gel hydroalcoolique qui était proposé, enfin qui était fortement obligatoire.
Distribué, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français, Covid ou non, Rosine Bachelot, conservent un appétit pour les lieux de pouvoir, c'est manifeste.
C'est pas seulement les lieux de pouvoir, c'est les lieux de patrimoine. Mmh. Vous savez, quand on interroge les Français, qu'on leur demande « c'est quoi pour vous la culture ?», ils répondent d'abord le patrimoine.
Oui.
Et pas seulement d'ailleurs le patrimoine majestueux des lieux de pouvoir, mais ils sont attachés au patrimoine de leur commune, ce qui en fait le charme, le petit lavoir, une chapelle, une propriété, une jolie propriété qui orne les rues et les routes des villages. Donc cet attachement au patrimoine, il est très fort. Alors bien sûr, vous avez raison, il y a la magie des lieux de pouvoir, surtout qu'en France, les lieux de pouvoir sont dans d'anciens palais de la royauté ou de l'empire et sont effectivement des sites tout à fait remarquables.
Bien sûr, mais l'intérêt pour le patrimoine évident est mis à l'honneur dans toute l'Europe d'ailleurs pendant ces deux jours. Roselyne Bachelot, qui explique aussi que vous aimez compagnonner, en dehors du fait que c'est quelqu'un que vous estimez, avec Stéphane Bern, le monsieur patrimoine. Vous étiez ensemble d'ailleurs et avec le président de la République dans le Gers vendredi, pour voir justement comment on reconstruit ensemble ce patrimoine français.
Et oui, Stéphane est un ami formidable. Alors, il fait un boulot extraordinaire. Pourquoi ?
C'est pas un ministre de la Culture bis.
Ah non. Il voudrait surtout pas, mais pas du tout. Mais vous voulez, c'est un des animateurs préférés des Français. Donc vraiment, il pousse la politique du patrimoine. Ensuite, avec ce loto du patrimoine qu'il a imaginé, évidemment, ça n'a rien à voir avec les sommes qui sont développées. L'année dernière, c'est une vingtaine de millions d'euros, et je pense que ce sera beaucoup plus cette année. On fera les comptes à la fin du loto.
Oui.
Évidemment, ça n'a rien à voir avec les 614 millions du plan de relance ou les 328 millions qui sont directement au crédit du ministère. Mais vous savez, ça mobilise les Français et puis ça a un effet de levier. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, dans la puissance publique, on ne peut intervenir que sur le patrimoine protégé. Patrimoine inscrit, patrimoine classé. Stéphane, avec le loto du patrimoine, peut intervenir sur du petit patrimoine qui compte beaucoup dans le cœur des Français. Donc on travaille la main dans la main.
Très bien.
Et il fait du très bon boulot.
Animateur préféré des Français qui est juste avant nous sur Europe 1. Ça tombe bien. Roselyne Bachelot,
ah, voilà.
On ressent votre enthousiasme et il fait du bien, mais il y a cette inquiétude aussi qui est mortifère pour tant de secteurs de l'économie et pour la culture que vous défendez en particulier. Je prends la réaction sur notre antenne du directeur du musée du Louvre hier, le plus visité du monde. Il dit aujourd'hui, on peut quasiment être seul devant la Joconde. Alors on est tranquille, mais un musée vide, dit-il, ce n'est pas la mission d'un musée. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Et quelles sont vos armes face à ça, cette réalité ?
Eh bien, notre arme, c'est le plan de relance, justement, pour permettre au musée du Louvre de préparer l'avenir. Une aide financière tout à fait importante, de plus de 40 millions d'euros ont été apportés à ce phare de la culture française. Ce que nous voulons à travers le plan de France Relance, nous ne voulons pas seulement panser les plaies. Bien sûr, il faut les panser. Mais ce drame qu'a été l'épidémie de Covid, vide. Et ça a été le révélateur d'un certain nombre de choses. On l'a vu à travers une étude qui paraît tous les 10 ans sur les pratiques culturelles des Français.
Oui.
Les pratiques culturelles des Français changent, en particulier des jeunes, et il faut que nos grandes institutions culturelles se préparent à demain, en tout état de cause. Donc faisant d'une catastrophe une opportunité. C'est pour ça que dans le plan de relance, il y a 400 millions d'euros pour développer la culture numérique, la digitalisation, la réalité virtuelle,
mais en conservant,
permettre finalement à tout un chacun de s'approprier le patrimoine.
Bien sûr, je prends un autre exemple qui vous tient à cœur aussi, l'Opéra de Paris. Il y a eu des grèves massives, Opéra fermé depuis le mois de janvier. S'ajoute à cela cette crise sanitaire terrible. C'est un gouffre qui ne peut pas vivre continuellement sous perfusion de l'État, sous perfusion financière. Comment il peut se réinventer, l'Opéra de Paris?
Alors, c'est précisément la raison pour laquelle, d'abord, il faut penser les plaies, je l'ai dit. C'est la raison pour laquelle j'ai donné à l'Opéra de Paris une subvention importante de plus de 60 millions d'euros et puis envisager peut-être la création d'une salle supplémentaire. Nous verrons cela. Mais la mission que j'ai confiée à deux spécialistes, Georges-François Hirsch et Christophe Tardieu, qui sont des fins connaisseurs de l'Opéra, avec en consultant les organisations syndicales, c'est de préparer l'avenir.
Oui.
C'est de dire comment l'Opéra de Paris affronte les enjeux de demain. C'est-à-dire que il y a des choses qui devront se transformer. Les choses ne pourront plus être comme avant. C'est le sens donc de cette mission et c'est le sens de tout le plan de relance, de cette restructuration. Pas, je répète, pas seulement penser les plaies, mais préparer l'avenir.
Vous les soutenez évidemment, les artistes, ces lieux de culture, 3 fois par semaine. Vous sortez vous-même, vous êtes sur le terrain, vous montrez que ce spectacle vivant est pour le moins, à tout le moins, j'allais dire, compatible avec cette économie d'urgence sanitaire. Mais on a Éric Ciotti, par exemple, en face, qui dénonce en même temps sanitaire. Est-ce qu'on peut appeler à participer aux journées du patrimoine malgré la circulation active du virus? C'est forcément un discours que vous entendez aussi, Roselyne Bachelot.
Oui, je l'entends, mais justement, c'est pour cela que le pays n'est pas à l'arrêt. Nous respectons les mesures barrières. Si vous les respectez avec une grande prudence et beaucoup de minutie, c'est les mesures barrières, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique,
mais
le masque, la distanciation. Là, il faut, il faut vivre, Wendy Bouchard.
Mais
et
sûr,
la culture est indispensable pour vivre.
Mais il y a parfois deux poids deux mesures. Il y a une auditrice qui nous a écrit tout à l'heure sur Twitter, Marina Anka, qui est écrivain et qui nous dit sans salon du livre, c'est compliqué de se faire connaître. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles de distanciation et de capacité au salon du livre que pour d'autres événements?
Nous verrons. C'est toujours très difficile dans les manifestations debout pour des raisons logistiques qui sont évidemment éminemment faciles à comprendre.
Bien sûr.
C'est que dans un spectacle assis, vous pouvez réguler les choses d'une manière simple, avec des distanciations entre les personnes isolées, les couples ou les groupes. À partir du moment où on est dans une manifestation où les gens sont debout, il est très difficile d'empêcher, par exemple, une agglutination devant telle vedette de la littérature. Mais nous aidons, bien sûr, le livre. Il y a plus de 50 millions qui sont donnés dans le plan de relance pour aider la filière du livre, et en particulier pour aider un certain nombre de professionnels des salons littéraires.
Plan de relance, fonds de compensation, ça signifie qu'aucun théâtre ne pourra faire faillite grâce à votre soutien, Roselyne Bachelot, par exemple.
Écoutez, d'abord, on peut toujours faire faillite parce que vous ne trouvez pas votre public. Ça arrive. Ou parce que tel ou tel responsable n'aura pas fait le bon choix éditorial, bien entendu. L'épidémie n'a pas arrêté ce genre de questions et de problèmes, mais vraiment dans à la fois le plan de relance, mais aussi des mesures d'urgence qui sont hors plan de relance. Par exemple, un fonds de compensation de 100 millions d'euros qui permet aux salles d'atteindre la zone de rentabilité. Je dis ouvrez, redonnez aux gens le goût d'aller au théâtre. Je suis allé là cette semaine voir au théâtre Rive Gauche Madame Pilinska et le secret de Chopin avec Eric Emmanuel Schmitt. Mais allez-y, vous allez vous régaler et vous allez passer une soirée merveilleuse avec Eric Emmanuel Schmitt sur scène et Nicolas Stavi au piano. Vous sortez, vous dites mais voilà, la vie est là.
Et on a envie. Et on a envie de retrouver cette vie. Voilà pourquoi les 2 et 3 octobre aussi, Roselyne Bachelot, vous allez encadrer la première édition des États généraux des festivals. À Avignon, aussi partout en France, il est temps de se projeter justement dans la construction d'une autre forme festivalière en France.
Oui, les festivals ont vraiment été durement touchés. Très durement touchés. Et il y a toutes sortes de festivals qui concernent aussi bien des festivals musicaux, de théâtre, des arts du cirque, des arts de la rue. Ils ont été quasiment, à part quelques exceptions, on pense pratiquement à la Roque d'Anthéron, mais pratiquement tous à l'arrêt. Et je veux réfléchir à un nouveau modèle où on va se rencontrer à Avignon, mais aussi dans toutes les directions régionales des affaires culturelles, parce que tout le monde, à cause des précautions sanitaires, ne pourra pas venir à Avignon. Et entre professionnels, d'abord, on va se dire les choses. Hein. Comment ça s'est passé, comment les gens ont souffert. Et ça, c'est très important. Et puis, on va réfléchir comment faire des festivals dans le cadre du développement durable avec la nouvelle donne du changement climatique, en assurant la parité homme-femme, la diversité, des nouveaux modèles économiques.
Donc, états généraux,
l'accès des publics. Et ça, tout ça, on va y réfléchir.
Vous avez le temps de regarder encore la télévision, Roselyne Bachelot ?
Je la regarde moins que je l'ai regardée, je dois dire.
Ou que vous l'avez pratiquée.
Les journées font,
j'imagine,
15 à 16 heures.
Mais vous avez forcément suivi le départ d'un élément de notre patrimoine, une personnalité, Jean-Pierre Pernaut, 33 ans d'incarnation, premier journal d'Europe en termes d'audience. C'est une partie de la proximité aussi qui risque de s'en aller avec Jean-Pierre Pernaut, Roselyne Bachelot.
Ah ben, Jean-Pierre Pernaut, je l'adore. D'ailleurs, il est juste avant Stéphane Bern, hein, le top 2 des animateurs préférés des Français, c'est donc Jean-Pierre et puis Stéphane. Véritablement, oui, et ben oui, il a décidé de partir, mais je suis sûr qu'il va être remplacé par quelqu'un ou quelqu'une, plus exactement, qui fera le même travail de proximité qui a fait le succès inégalé de ce 13 heures. C'est la France aussi qu'on veut défendre dans le patrimoine. Souvent, les gens croient que dans les politiques du patrimoine ne sont que pour Paris. Bien sûr, il y a un patrimoine exceptionnel, mais justement, ce que j'ai voulu dans cette politique patrimoniale, et en quelque sorte Jean-Pierre Pernaut fait partie de ce patrimoine, c'est rééquilibrer en faveur de la France, de la France des territoires, de la France des régions. J'ai dit en entrant dans ce ministère, rue de Valois, que je serais la ministre des artistes et des territoires.
Oui.
Eh bien, c'est ça que je mène.
Eh bien, et beaucoup de sollicitations nous sont parvenues à l'annonce de l'interview sur Europe 1. Alors, je vous permets de me faire le porte-voix des tours qui vous invite début octobre pour les concerts d'automne, parce que la culture aussi se crée, vous le disiez très justement, partout en région. Merci Roselyne Bachelot depuis la rue de Valois.
Merci Wendy Bouchard.
À bientôt.